La science et nous. Une émission proposée par Sylvie Vauclair.
Je suis pour la troisième fois avec Sébastien de Revels, qui est astrophysicien à Toulouse et maître de conférence à l'université. On a parlé déjà pendant deux émissions des étoiles. Que c'est que les étoiles? Est-ce qu'il y a des étoiles différentes les unes des autres, des stades d'évolution différents? Et puis, dans la deuxième émission, on a expliqué comment nous savons tout ça. Comment est-ce qu'on observe les étoiles, leur distance, leur luminosité, leur température? Aujourd'hui, on va entrer dans un sujet un petit peu différent, qui est relativement récent, dure une trentaine d'années. C'est cette découverte que les étoiles et le Soleil lui-même ont des vibrations de lumière qui sont dues à des ondes. Ça peut être des ondes sonores qui se propagent à l'intérieur de l'étoile. Ça peut être aussi d'autres types d'ondes, comme celles qu'on a quand on lance une pierre dans l'eau. Alors, Sébastien, peut-être qu'on peut commencer par le Soleil, comme on a fait au début, parce que le Soleil a des vibrations qu'évidemment on ne voit pas à l'œil, on ne s'en rend pas compte. Mais le Soleil a des vibrations qu'on détecte bien avec des instruments appropriés. Et puis, beaucoup d'étoiles ont des vibrations qui sont comme celles du Soleil ou différentes de celles du Soleil. Et on peut avoir comme ça des idées sur la masse des étoiles, leur température aussi, et puis comment elles sont faites à l'intérieur, peut-être aussi la manière dont elles tournent. Toutes sortes de résultats importants pour comprendre les étoiles qui viennent de cette sismologie. C'est une discipline récente, une discipline nouvelle qui a transformé notre compréhension des étoiles.
Oui, effectivement, donc la sismologie, c'est une opportunité exceptionnelle de mieux comprendre les étoiles. On a vu déjà la semaine dernière que quand on observe une étoile, on observe sa surface, mais souvent ça ne suffit pas parce qu'il y a des étoiles qui peuvent avoir des surfaces assez similaires et des intérieurs complètement différents. Donc si on veut vraiment comprendre comment fonctionne une étoile, on a besoin d'observations qui sont sensibles à ce qui se passe sous la surface, donc dans l'intérieur. Et ça, il n'y a que les ondes qui peuvent le faire pour le moment. Donc la sismologie, c'est l'étude des ondes qui se propagent à l'intérieur, ici d'une étoile. Comme il en existe plein qui se propagent dans différents endroits, elles vont sonder différentes régions. Et quand on met ensemble toutes les informations qu'elles nous apportent, on a des informations très précises sur l'intérieur de l'étoile.
On peut peut-être revenir un peu, moi j'ai ça en tête, sur la manière dont ça a été observé pour la première fois pour le Soleil, parce qu'on a su ça pour le Soleil bien avant de le savoir pour les étoiles. Et en fait, c'est des gens des chercheurs américains qui observaient ce qui se passe à la surface du Soleil, les éjections, les protubérances et des choses comme ça, et qui ont découvert un signal, comme on dit, quelque chose, une variation dans la lumière du Soleil, une variation périodique de 5 minutes, et qui ne savaient pas ce que c'était. Et ça, si je me rappelle bien, c'était dans les années 1960, fin 60, 68, 69. Et 10 ans plus tard, il a fallu attendre 10 ans pour que d'autres chercheurs qui avaient étudié en détail ce qui pouvait se passer à l'intérieur du Soleil comprennent que ces vibrations qu'on observait en surface étaient en fait des ondes. Alors dans le Soleil, ce sont des ondes sonores qui venaient se frapper la surface de l'intérieur et c'est ça qui produisait les variations de lumière. C'était assez extraordinaire parce que c'était au départ une observation qu'on n'attendait pas du tout. Un résultat qu'on n'attendait pas du tout. Et puis après, les gens ont essayé d'observer les étoiles. Mais les étoiles, c'est beaucoup plus difficile que le Soleil, parce que le Soleil, on voit le disque du Soleil, tandis que les étoiles, on ne voit qu'un point. Donc, est-ce que tu peux en dire un petit peu, un mot sur les observations? Il y en a eu au sol, il y en a eu par satellite.
Oui, alors donc effectivement, les découvertes d'oscillations dans le Soleil, ça a vraiment marqué une phase très importante pour la sismologie. Il faut savoir quand même que on avait déjà détecté avant le Soleil des étoiles qui montraient des oscillations. Des oscillations beaucoup plus grandes amplitude.
Ah oui, bien sûr.
Ça n'avait pas forcément été identifié comme étant lié à ces oscillations.
Et qui ont même servi aussi à mesurer des distances.
Voilà, les TFOI, les MIRA.
C'est vrai ça.
Mais c'est vrai qu'avec le Soleil, en fait, on a compris, et C'est vrai que ça a demandé du temps à partir des premières observations de ces oscillations-là. Alors, il faut préciser que ces oscillations-là, ce sont des oscillations de très faible amplitude. Donc, si on le ramène par exemple à la luminosité, en termes de luminosité, c'est de l'ordre du millionième du flux qui nous vient du Soleil. Donc, c'est des oscillations, des variations de la luminosité de l'ordre du millionième. Donc, c'est vraiment...
Évidemment, on ne se rend pas compte à l'œil.
Voilà, on ne les voit pas à l'œil nu. Donc c'est pour ça que bien que ce soit le Soleil notre étoile la plus proche, ça a demandé quand même pas mal de temps. C'est que dans les années 1960 qu'elles ont été détectées pour la première fois. Quand on s'est rendu compte dans les années 70 que ces vibrations, en fait, c'était les vibrations propres du Soleil, le Soleil qui résonne, eh bien, en fait, ça a ouvert un énorme potentiel parce que la façon dont le Soleil se met à vibrer, en fait, ça dépend de ses caractéristiques internes. Donc là, les scientifiques ont compris qu'il y avait un énorme potentiel pour aller justement voir ce qui se passait à l'intérieur du Soleil. Donc là, il y a eu d'énormes découvertes qui ont été faites et la physique solaire a fait un énorme bond en avant. On a compris beaucoup de choses sur le Soleil qu'on ne comprenait pas et inversement, ça a soulevé des questions, de choses qu'on croyait comprendre sur le Soleil qu'en fait on ne comprenait pas si bien. Et évidemment, ça a donné l'envie d'aller chercher ce même type d'oscillation dans d'autres étoiles que le Soleil. Et là, c'était plus compliqué parce que comme ce sont des oscillations de très faible amplitude, pour les détecter dans d'autres étoiles qui sont évidemment beaucoup plus lointaines, ça a demandé d'énormes efforts observationnels pour les observer d'abord depuis le Sol et puis maintenant on les observe beaucoup depuis l'espace.
Il y a des satellites dans l'espace qui sont dédiés, des satellites américains. Par exemple, en ce moment, il y a TESS.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, un des problèmes pour détecter ces oscillations-là, c'est que donc déjà, il faut des capteurs qui sont de très très précis. Donc, quand l'étoile oscille, on va avoir des petites variations de son rayon qui vont provoquer des petites variations de la luminosité qui provient de l'étoile, dont on a parlé déjà dans les émissions précédentes. Et je l'ai dit, hein, de l'ordre du millionième du flux, donc de très petite amplitude. Donc, il faut être capable de détecter des variations qui sont très 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 petites. Il faut observer pendant longtemps. Parce que comme ça, on a une bonne précision sur les fréquences, les périodes à laquelle on a ces oscillations-là. Et puis, on voit bien que quand on observe les étoiles depuis le sol, hein, on les voit scintiller un peu les étoiles, mais ce n'est pas du tout des oscillations stellaires. En fait, c'est l'atmosphère qui crée ces petites scintillations. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec les oscillations stellaires, c'est lié à l'atmosphère de la Terre, et c'est un énorme frein pour détecter ces oscillations depuis le sol. Donc, aller dans l'espace, on peut... Avec un télescope, avec un satellite, on peut observer pendant aussi longtemps qu'on veut, presque. Et on est surtout débarrassé de l'atmosphère. Donc, avec essentiellement, les façons dont on détecte ces oscillations, c'est des télescopes, hein, avec des capteurs CCD, du type des capteurs qu'on a sur les appareils photo, mais qui sont très, très précis, qui permettent de détecter des toutes petites variations du flux, et observer pendant longtemps, et avec une bonne cadence, et on arrive à détecter des oscillations stellaires.
Alors, au début, je me rappelle qu'on étudiait étoile par étoile, et maintenant, avec ces satellites, on étudie, c'est des grandes bases de données maintenant. On étudie énormément d'étoiles en même temps, on fait des statistiques énormes, on fait plus étoile par étoile, sauf exception.
Oui, c'est ça, effectivement. Donc, à partir du moment où on est allé dans l'espace pour faire de la sismologie, donc pour resituer un peu le contexte, le premier satellite qui a vraiment fait de l'astérosismologie, on parle d'astérosismologie pour la sismologie des étoiles, c'est Corot, un satellite qui était essentiellement du CNES, donc
Français,
beaucoup à composantes
européen,
françaises,
c'est européen.
français et européens, un peu le Brésil.
Brésil, oui.
Voilà. Donc, ce satellite a été lancé en 2006 et en activité jusque 2014. Lui, il a vraiment démarré un petit peu l'astérosismologie spatiale. Il a été suivi par le satellite Kepler, qui est lui un satellite de la NASA, qui a fait un peu l'équivalent de ce que fait Corot, mais avec un plus grand nombre de cibles et surtout en observant pendant plus longtemps. C'est vraiment critique d'observer pendant longtemps parce que c'est ça qui va nous donner accès à des choses fines à l'intérieur de l'étoile. On a le satellite TESS maintenant, qui est aussi un satellite américain qui fait aussi, mais qui est très bien pour faire de la sismologie, un peu moins bien que Kepler. Et surtout, on attend le satellite Plateau, la mission Plateau, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne, qui sera lancée à la fin 2026 et pour lequel on est dans les starting blocks pour détecter sur des oscillations dans encore plus d'étoiles que ce qu'on avait sur Kepler.
Alors, tu peux peut-être nous dire maintenant ce qu'on a découvert, enfin des résultats obtenus avec cette étude sismologique d'étoiles. Bon, déjà peut-être pour le Soleil, puisqu'on commence à parler du Soleil, et puis d'autres étoiles.
Alors, d'accord. Bon, on peut déjà effectivement parler un petit peu de ces deux différents types d'oscillations. Donc, les ondes qui se propagent dans les étoiles, il y a les ondes de pression, les ondes acoustiques, c'est l'équivalent de la propagation des ondes sonores dans l'atmosphère. Donc, on a ça aussi à l'intérieur des étoiles. Et l'autre type d'ondes, ce sont des ondes de gravité. Donc, c'est des ondes un peu l'équivalent, hein, comme Sylvie, tu l'as dit, quand on lance un caillou dans l'eau, on voit des ondes à la surface de l'eau, ce sont des ondes de gravité. Donc, il y a les deux types d'ondes qu'on trouve et aussi à l'intérieur du Soleil, sauf que dans le Soleil, on a accès uniquement, pour le moment, aux ondes de pression, parce que les ondes de gravité se propagent vraiment dans l'intérieur de l'étoile et elles ne sont pas accessibles pour le moment à la surface. Malgré ça, avec juste des ondes de pression, on a pu faire énormément de choses. Alors, je ne vais pas avoir le temps de citer tout ce qui a été fait sur le Soleil, mais on a pu remonter, par exemple, à la vitesse du son à l'intérieur du Soleil, à voir les différentes discontinuités qu'il peut y avoir à l'intérieur du Soleil, un petit peu de la même façon que pour la sismologie terrestre, où on a pu voir des discontinuités dans la Terre grâce à la sismologie. Un exemple que je peux citer, qui est très important pour le Soleil, c'est que grâce à la sismologie, on a pu voir comment tourne le Soleil à l'intérieur. C'est-à-dire que la Terre, quand elle tourne, c'est une boule solide. Donc, tous les points mettent sur la Terre mettent le même temps pour faire un tour autour de la Terre. Comme le Soleil est une boule de gaz, il n'y a pas de raison que tous les éléments mettent le même temps pour faire un tour autour du Soleil. Et d'ailleurs, on sait que même à la surface du Soleil, l'équateur tourne plus vite que le pôle.
Oui, d'ailleurs, c'est ça qui conduit à l'existence des taches solaires et du champ magnétique. Donc, on a parlé dans une autre émission avec Ludwig Klein.
Voilà, et donc, jusqu'à ce qu'on arrive avec la sismologie à voir un peu comment tourne l'intérieur du Soleil, il était attendu, les scientifiques pensaient que le cœur du Soleil devait tourner plus vite que la surface. Ça, c'est parce que globalement, le cœur a tendance à se contracter et en se contractant, on s'attend à ce que les couches accélèrent, c'est-à-dire qu'elles tournent de plus en plus vite. Et en fait, quand on a réussi avec la sismologie à mesurer la rotation à l'intérieur, on s'est rendu compte que ce n'était pas du tout ça. Le cœur du Soleil est en rotation quasiment solide. En fait, ça veut dire que un peu comme la Terre, chaque point du gaz va mettre le même temps à faire un tour. Et ça, ce n'était pas du tout attendu. Et donc, ça a montré qu'il y avait la nécessité de mécanismes qui permettaient justement d'empêcher le cœur de tourner plus vite dans le Soleil.
Je sens qu'on va voir arriver le champ magnétique quelque part. Mais je crois qu'on arrive à la fin de l'émission. Donc, on a parlé de résultats concernant le Soleil. Je crois que dans la prochaine émission, qui sera la dernière, la quatrième émission, on va aller un petit peu plus loin dans les résultats pour d'autres étoiles que le Soleil. Et puis, on va parler un petit peu de ce champ magnétique, parce que les étoiles sont magnétiques et c'est quelque chose de très, très, très important. Donc, il va falloir une dernière émission pour parler de tout ça. Tu seras avec nous la semaine prochaine ?
Avec plaisir.
Merci, à bientôt. Au revoir Sébastien.